d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine qu'Arlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils.
Bienvenue à l'émission Chez Betty, femme d'un jour, femme toujours, une émission dédiée à la femme, son histoire, son actualité, ses petites manies et son impertinence, d'hier à demain, de l'amour à l'humour, de récits, de sujets, d'invités, d'artistes, et à mes côtés nous accueillons Marie-Anne.
Bonjour.
Bonjour Marie-Anne, ça va ?
Très bien, et
toi ? Donc tu vas passer 2 heures avec nous ?
Exactement.
On va parler de couture, de mode.
Voilà.
Ouais, cool. À mes côtés, toujours... La belle, l'imperturbable, l'impertinente, Coco.
Bonjour.
Bonjour Coco.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va bien, merci.
Malgré la pluie ?
Oui.
Et nous, bonjour à Angel.
Bonjour.
Ça va aujourd'hui ?
Ça va.
Plein de musique ?
Oui.
Ah, et pas très pas. Ça va aller, il sera plus bavard après. Et moi, bah bonjour à moi.
Bonjour Betty.
Ouais, bonjour. Je suis un petit peu malade aujourd'hui, donc... risque, j'espère, il y a déjà des dérapages, donc que je sois malade, alors.
Elle parle un petit peu du nez.
Ouais, elle parle un petit peu du nez. Donc, on va passer à la rubrique actualité. C'est parti, mon kiki. Actualité féminine. Alors aujourd'hui, je vais commencer par une du plus mauvais au plus positif.
Ah oui.
C'est mieux pour changer. Non, parce qu'actuellement, en fait, on fait toujours que du négatif. Donc on va faire un petit peu de négatif et un petit peu de positif. Donc malheureusement, nous sommes au 121e féminicide en France.
Ouais.
Donc on va dépasser 2018. Une femme de 73 ans assassinée par son époux à son domicile. C'est un véritable drame qui secoue la commune dans l'Indre. Ce lundi matin, le corps sans vie d'une femme de 73 ans a été retrouvé à son domicile. C'est son mari, âgé du même âge, qui a contacté des proches pour leur confesser le meurtre. Donc ce lundi 14 octobre, la gendarmerie et un camion d'identification criminelle ont campé toute la journée devant le domicile d'un couple de retraités. Dans l'Indre, très tôt ce matin, des membres de la famille des deux septuagénaires se sont rendus sur place suite à un appel de celui-ci qui fait aujourd'hui figure de principal suspect. Ce dernier aurait en effet contacté des proches quelques minutes plus tôt pour leur avouer le meurtre de sa compagne. Une fois sur place, ces derniers n'ont pu que constater son décès et ont rejoint les secours et la police aux alentours des 6h du matin. L'homme qui n'était pas connu pour les faits de violence conjugale a été hospitalisé pour des raisons médicales, ne relevant pas du domaine psychiatrique. Alors, une autopsie sera prévue. Le retraité a été placé en garde à vue. Il devrait être entendu par les autorités dans les prochaines heures. Les circonstances de ce drame demeurent encore extrêmement floues à ce stade de l'enquête. Il s'agit du 121e féminicide recensé depuis le début de l'année. En 2018, on est à 121 femmes tuées. Donc en fait, on va sûrement dépasser le nombre de l'année 2018, malheureusement.
Justement, oui.
Donc, autre petit article. Non, la carrière des sportives ne s'arrête pas après un accouchement.
Bah non.
Bah on le dit pas assez. Oui, sport et maternité sont tout à fait compatibles et elles sont nombreuses à nous le prouver chaque année. Alison Phoenix, Shelly-Ann Fraser, zoom sur toutes ces mamans qui continuent de briller même après avoir accouché. Aujourd'hui, la maternité est un sujet encore tabou chez les sportifs de haut niveau. En effet, nombreuses font le choix de passer leur désir d'enfant sous silence, de peur de ne plus être sélectionnées ou d'être écartées par leur équipe. En mai dernier, Allison publiait une tribune dans le New York Times pour dénoncer la façon injuste dont elle avait été traitée par Nike au cours de sa grossesse. « Malgré toutes mes victoires, Nike voulait me payer 70% de moins qu'avant. Si c'est ce que je vaux, je l'accepte, mais je n'accepte pas ce statut autour de la maternité », avait-elle écrit. L'athlète racontait également les pressions subies par la marque américaine pour qu'elle revienne au plus vite à l'entraînement après la naissance de sa fille en novembre 2018. Malgré une césarienne à 32 semaines à cause d'une sévère pré-éclampsie qui menaçait ma vie et celle de mon bébé. Les Américains ne sont pas les seuls à avoir été abandonnés par Nike au moment de leur grossesse. Mélina Robert, vice-championne olympique du disque, a relevé que son contrat avec la marque avait aussi pris fin après la naissance de sa deuxième fille en juin 2018. Face à la polémique, Nike décide finalement de changer sa politique et de désormais mieux protéger les athlètes enceintes. Nous avons pris conscience, nous, Nike, que nous devions faire plus, et c'est une opportunité unique pour le secteur du sport, en général, d'évoluer pour mieux soutenir nos sportives, déclare en mai dernier un porte-parole de Nike. Enfin, c'est un peu fort, non?
Bah oui.
Faut rouspéter pour avoir les choses.
C'est aberrant, mais...
Ouais. Selon le quotidien américain, après avoir donné naissance à un enfant, chaque athlète sous contrat avec Nike voyait sa rémunération conditionnée pendant 12 mois à son niveau de performance. C'est cette clause que le groupe américain s'est engagé à supprimer, en mettant en œuvre une politique qui normaliserait le traitement des athlètes, pendant leur grossesse. Une très bonne nouvelle, et surtout un combat gagné par Allison Felix, qui déploierait dans une industrie du sport où les règles sont encore principalement faites par et pour des hommes. Voilà.
Eh oui.
On a encore beaucoup de boulot à faire, hein. Dans le domaine féminin. Alors là, c'est dans le Journal des Femmes, un article qui est du 12 octobre 2019. J'ai trouvé ça un petit peu marrant. Donc c'est « Je mange, donc je suis ». 10 infos surprenantes sur l'alimentation. Se nourrir est un geste vital et quotidien qui cache bien des secrets. À partir du 16 octobre 2019, l'exposition « Je mange, donc je suis » au Musée de l'Homme de Paris vous fait découvrir les facettes biologiques, culturelles et écologiques de l'alimentation. Donc, on vous relève en exclusivité 10 faits découverts lors de l'exposition.
Alors,
à travers un parcours construit en 3 étapes, corps et nutrition, culture et comestible et consommer la nature. L'exposition « Je mange, donc je suis » vous invite à découvrir l'alimentation sur tous les angles de l'assiette. Grâce à leur travail pointu, amène le public à se nourrir d'informations sur le sujet qui nous parle à tous. Voici quelques faits que nous avons remarqués lors d'une visite. Premièrement, les femmes préfèrent le yaourt et les hommes préfèrent le fromage. Ben moi, je préfère le fromage.
Moi, je préfère les deux.
Moi, je préfère le fromage. Donc, dans la première salle de l'exposition, les visiteurs sont amenés à découvrir les aliments selon une étude individuelle nationale des consommations alimentaires proposées à des femmes et hommes français âgés entre 18 et 79 ans en 2017. Il existe des aliments associés à un genre et un accès préférentiel aux hommes aux ressources les plus valorisées et les plus nutritives. Résultat, on constate que 71% des femmes aiment le yaourt contre 66% et des hommes. Et 84% des hommes apprécient le fromage contre 77% des femmes.
D'accord. Oui.
Bah moi, je préfère le fromage. N'empêche. Ensuite, en Mauritanie, on gave les femmes pour les faire grossir. Il fait pas bon d'aller vivre là-bas. Si dans les sociétés occidentales, la minceur est souvent un standard de beauté dans d'autres, l'embonpoint féminin est un signe de bonne santé, richesse et fécondité. L'exposition nous apprend que dans quelques sociétés en Mauritanie, la pratique du gavage consistant à forcer les jeunes filles à ingurgiter des énormes quantités de nourriture pour les amener à grossir le plus possible subsiste encore.
Wow.
Bon, ben on ferait bien, on est bien en France hein, oui. Parfois. Mmh. On passe à une autre. Les premières émissions culinaires datent des années 50. Si depuis les années 2000, Top Chef, Master Chef ou Le Meilleur Pâtissier connaissent un énorme succès, ce concept d'art visuel, comme le qualifie l'exposition « Je mange, donc je suis », lié à la cuisine ne date pas d'hier. On se souvient bien sûr de Maïté, mais saviez-vous que la première émission du genre s'appelait « Art et magie de la cuisine » a été lancée en 1954 par la chaîne RTBF Télévision.
D'accord.
Être néophobe.
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous sauriez me dire ?
Vous calez ? La nouveauté.
Pas vraiment. Donc voilà un terme presque facile à deviner. Néo signifie nouveau, phobe désigne la peur. La néophobie alimentaire est le refus de goûter des aliments.
Manque de curiosité.
Ouais. C'est souvent le cas des enfants âgés entre 2 et 6 ans. Mais alors, comment l'enfant finit-il tout de même par tester de nouvelles saveurs ? Grâce au mécanisme de l'imitation qui consiste à prendre exemple sur les parents et aussi élargir sa palette de goûts.
Oui.
Oh, puis, parce qu'on les force un petit peu aussi, je pense. Surtout. Servir du vin à table peut causer un incident diplomatique.
Ah bon ?
Eh ben ouais, bah on en apprend hein, des choses. Hein. En 2015, le président iranien était en visite officielle en France et a eu écho que servir du vin est une forme d'affirmation culturelle et identitaire en France. De confession musulmane, l'homme d'État demanda la suppression de l'alcool avant le dîner. Le repas est annulé.
D'accord.
Voilà. Mmh. Bah, je sais pas, nous en France, on a toujours fait ça, donc on se pose pas la question.
Non.
Un bon vin ou une bonne bière. Alors, le plat écologiquement exemplaire servi à la COP21. En 2015, à la COP21, réunit 150 chefs d'État au Bourget pour discuter des enjeux environnementaux. Les plats servis devant être exemplaires, le chef Yannick Aleno propose une soupe freneuse, moderne et coquille de Saint-Jacques à la vapeur florale accompagnée de gelée de fleurs. Pas de viande bovine, des produits locaux et biologiques et une dominante végétale. Et les critères sont remplis pour déguster un plat écologique.
Ouais.
Ouais, enfin, c'est toujours les mêmes quoi, qui sont en train de manger ce qu'ils... Hein. Enfin, ça les fait pas pousser à faire des choses pour l'environnement. Pas pour autant. Ça a dû coûter encore très cher tout ça. Donc la reine Elisabeth a cru qu'elle mangerait du hérisson lors d'un voyage en France.
Du hérisson ?
Oui.
Pourquoi ?
Ben, je ne sais pas. Parler français peut parfois éviter des drames diplomatiques. En 1957, la reine Elisabeth est en voyage officiel en France et reste sans voix à la lecture du menu, pensant qu'elle va bientôt déguster du hérisson. Heureusement, l'intendance met vite fin aux interrogations de la Queen et explique qu'il s'agit d'une boule de foie gras piquée de truffes.
D'accord.
Enfin, ça devait être marqué boule de foie gras
à l'hérisson.
Enfin, tu vois, un truc dangereux. Bon, bah voilà. On ne mange pas de hérisson en France.
Non.
Des escargots, peut-être, mais pas de hérisson. La vraie cœur de bœuf. Cette ancienne variété de tomates se cultive sur un sol particulier et se conserve peu longtemps. Si vous croyez que celle-ci pour les étals, c'est parce que la grande distribution utilise cette même appellation pour désigner une variété de tomates côtelées, produite hors sol, qui se conserve bien mieux.
Oui, oui.
Donc en fait, on vous ment.
Ah ben, c'est pas bien.
Voilà. L'accès à l'eau courante date seulement des... Je vous laisse deviner. Quelle année ? Dites une date, non ?
Les années 60.
Eh ben non,
40.
Les années 80.
Hein ?
Mmh. Pour la génération Y ou Z, avoir de l'eau en illimité à la maison est une évidence. Pourtant, il faut attendre la fin des années 80 pour que la quasi-totalité des communes françaises soit desservie.
Ah, oh,
eh ouais. Ah ben moi, quand j'étais jeune, on allait chercher l'eau à la source. Et pas... on buvait pas l'eau du robinet. Et non. Comme quoi... on en apprend tous les jours.
Exactement.
Et le dernier. Le saumon sauvage n'est pas meilleur que ses cousins bio ou sous antibiotiques.
Ah.
Si les consommateurs font de plus en plus attention à leur choix au rayon poisson, gare aux idées reçues. En effet, les saumons issus d'aquaculture conventionnelle élevés de manière industrielle et intensive contiennent de nombreux antibiotiques. Préférez les saumons sauvages, ils se nourrissent de plancton contaminé par les métaux lourds.
Ouais.
Les choisir bio, ils sont souvent plus pollués et contiennent notamment du mercure et de l'arsenic.
D'accord, bon, bah, plus de saumon alors.
En fait, à un moment donné, on peut plus manger, c'est plus la peine.
Voilà.
Ou alors, il faut prendre des saumons et à la rigueur, les mettre dans l'eau de sa baignoire.
On va les saver nous-mêmes.
Mais ouais, donc apparemment, bah, de toute façon, l'eau est polluée, alors du coup, ouais. Donc, faut faire attention. Faudrait qu'ils notent, en fait, tout ce qu'ils donnent en antibiotiques. Je crois qu'on n'achèterait plus rien. Donc, du coup, on va passer à une petite musique.
Oui.
Alors, Angèle.
Cette fois, je vais vous passer King Jelem de Anderson .Paak, sorti cette année en 2019, du coup.
Eh bien, on écoute ça.
Allez.
aujourd'hui, nous allons parler de mode.
Oui.
Les femmes couturières dans l'ombre. N'est-ce pas, Marianne?
Oui.
Par la quotidienne. Donc, je vais commencer par mon petit texte. Donc, le monde de la couture, on va pouvoir dire ça, est un domaine que l'on pourrait qualifier de très féminin. Les hommes dominent le monde de la mode et du vêtement de luxe, et pas les femmes. En effet, on constate une très importante division du travail sexué dans ce milieu. Les femmes exercent en majorité les métiers précaires et peu reconnus, petites mains, couturières. Quand les hommes occupent le devant de la scène médiatique, je vais y arriver, avec des noms de stylistes célèbres tels que Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, je pense que ça on les connaît très bien. Les principales évolutions de la haute couture sont attribuées à des hommes couturiers. Charles Frédéric aurait créé la première maison de haute couture en 1858. Paul Poiret aurait libéré les corps des femmes au début des années 1910. Dans cet article, j'aimerais vous présenter des figures clés de l'histoire de la mode, indémodables ou oubliées, qui ont toutes à leur manière laissé leurs traces dans l'histoire de la haute couture. La mode, ce milieu que l'on a si souvent associé aux femmes de façon péjorative et méprisante, est pourtant un excellent médium pour connaître l'évolution de nos pratiques et représentations corporelles. Et d'ailleurs, qui de mieux placé pour les femmes, pour habiller le corps des femmes ? Logiquement.
Logique.
Nous, on n'a rien entre les jambes. C'est plus facile pour nous habiller à ce niveau-là. Alors, Rose Bertin, qui est née en 1747, est un nom de nos jours oublié. Rose Bertin est pourtant la première à révolutionner la production de vêtements, inventant le principe de mode tel que nous le connaissons. Avant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la conception des vêtements est une affaire d'hommes, tailleurs, couturiers, qui produisent des modèles standardisés dont les coupes changent très peu au cours des siècles. Les modes sont lancées par les clientes, souvent de l'aristocratie. Puis arrive Rose de Coubertin, jeune fille du bas peuple, avec une petite formation de modiste dans un atelier parisien. Très vite, ses talents sont perçus par les dames de haut rang, notamment la princesse de Conti, qui l'introduit à la cour. Grâce à sa notoriété, elle fonde son magasin au Grand Mangol, au départ simple marchande de mode, c'est-à-dire personne qui s'occupe juste des décorations et accessoires de la mode, tenue complète. Elle va bientôt élaborer ses propres modèles et être à l'origine de la mode champêtre et moins engoncée à la fin du XVIIIe siècle. Elle devient très vite proche de la reine Marie-Antoinette, qui la nomme ministre des modes. C'est à elle que l'on doit la robe chemise, simple robe de gaze blanche qui fit scandale. Ouais, comme quoi un vêtement ça pouvait faire scandale. Donc, quand Vigier représenta Marie-Antoinette dans cette tenue si simple qui ressemblait à un déshabillé, la simple Picarde devint ainsi la couturière la plus prisée de Versailles et de l'aristocratie parisienne. Tout le monde raffole de ses tenues et de ses trouvailles. Elle privilégie les robes à étoffes, simples et bon marché, concentrant tout le luxe dans la parure, dentelles et autres décorations. Avec elle, une petite révolution s'impose. Les couturières ne sont plus de simples exécutantes et deviennent des designereuses, on dit. Designereuses, c'est marqué. Ruinée par la Révolution, elle s'exile en Angleterre pendant un certain temps et revient en France lors du Premier Empire. Même si son succès part en fumée avec la fin de l'Ancien Régime, elle reste une figure importante de femme créatrice et entrepreneuse avant l'heure, tout en étant restée toute sa vie célibataire.
Oh.
Bah, une femme, une vraie. Hein ? Elle s'est pas mariée et elle a créé sa maison de couture. Jeanne Paquin, qui est née en 1869, est née à Saint-Denis, fait ses premiers pas dans le domaine de la couture et elle rentre en apprentissage comme modéliste. Après son mariage avec Isidore Jacobs, dit Paquin, elle ouvre en 1891 sa propre maison de couture à Paris, rue de la Paix. Ses robes sont appréciées par leur inspiration historique. 1600 et leur matière romantique. À cette fin du 19e siècle et début du 20e siècle, l'essor des maisons de couture est à son acmé. Il est difficile de savoir où donner de la tête entre les sœurs Callot, Jacques Doucet, Paul Poiret ou encore la très renommée maison Worth. Paquet réussit à tirer son épingle du jeu en prenant en compte l'importance de la publicité et de la promotion de sa marque. Elle n'hésite pas à habiller de ses créations de jeunes modèles ou des femmes en vogue et de les exhiber lors de sorties à l'opéra ou de grands prix équestres. Elle est aussi l'une des premières à mettre en place les défilés de mode où tous les grands noms de la société sont invités pour découvrir ses dernières créations. À partir des années 1910, elle fait le pari de l'internationalisation, j'y arrivais, et ouvre des succursales à Londres, New York, Madrid et Buenos Aires. Ses vêtements s'arrachent et donnent le ton du moment, remettant au goût du jour les tailles hautes façon empire et les motifs japonisants, le costume tailleur pour les femmes modernes et indépendantes. Véritable businesswoman, Jeanne Paquin se retire en 1920 et laisse derrière elle un empire florissant. La maison Paquin cesse son activité en 1956. Voilà.
D'accord.
Ouais, donc en fait, c'est une femme qui a créé les défilés de mode.
Oui.
C'est bien ça.
Oui.
On en apprend tous les jours, hein. Moi je vous le dis. Madeleine Voigny, 1876. Elle est née.
D'accord.
Jeune fille de province, elle commence son apprentissage de couturière à Paris, mais le quitte rapidement au gré des conventions qui constituent travail, famille, mari, pour parfaire sa formation outre-Manche. Là-bas, après un court séjour comme couturière dans un asile, elle intègre l'atelier de Kate Reilly, qui habille les femmes de la bonne société britannique. Son talent est vite reconnu, notamment grâce à sa maîtrise du drapé. Elle va passer dans de grands ateliers de renom, les sœurs Callot, Jacques Doucet, avant d'ouvrir sa propre maison de couture en 1912. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que son succès est reconnu. Donc ces robes sont faites pour épouser le corps des femmes et non le contraindre. On peut même affirmer qu'elle est la première à supprimer le corset à la fin des années 1910. Amoureuse des lignes naturelles, elle travaille et drape ses tissus à la forme du corps féminin. Elle devient maîtresse dans la coupe en biais, coupant ses pièces dans la diagonale du tissu afin d'obtenir une élasticité et une fluidité sans pareil. Voynet est plus qu'une couturière, c'est une ingénieure. Ses patrons sont de véritables chefs-d'œuvre de technicité. Elle travaille aussi beaucoup les pièces géométriques, inspirées par l'art déco des années folles. Elle prend sa retraite en 1939, le jour où la Seconde Guerre mondiale. Voynet reste dans le milieu de la haute couture, un véritable symbole, continue d'inspirer de nombreuses designeuses.
Oui.
Mmh. Coco Chanel, je pense qu'on la présente plus,
ouais.
1883, Gabrielle Chanel, dit Coco, est assurément la figure la plus emblématique de la haute couture française. De nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques ont décrit sa vie extraordinaire et mouvementée, et pour être honnête, il y a tant à dire que je pourrais pas m'étendre beaucoup sur le sujet. Hein. Ayant grandi dans un orphelinat, elle est poussée par les dames chanoinesse au métier de couseuse. Tant en travaillant pour la maison Grand Paré, Gabrielle qui a toujours eu un côté rebelle et indocile, passe ses nuits au Grand Café et à la Rotonde de Moulin. Là-bas, tout en charmant les officiers, elle pousse la chansonnette, ce qui lui vaudra rapidement le surnom de Coco, en rapport avec la chanson qui a vu Coco dans le Trocadéro. Donc en 1908, elle fait la connaissance d'Étienne Balzan, qui devient son amant et son protecteur. Mais cette rencontre avec Boy Capel, homme d'affaires anglais, qui va la lancer dans le domaine de la mode. En 1909, elle ouvre sa première boutique où elle confectionne des chapeaux. Ses créations sont appréciées pour leur simplicité qui contraste avec fortement avec les chapeaux démesurés et extrêmement décorés de l'époque. Au début de la Première Guerre mondiale, elle ouvre sa maison de couture à Biarritz, puis à Deauville, suivant ainsi sa clientèle aristocratique qui tente d'échapper aux affres de la guerre. Le style Chanel dénote déjà fortement des influences du moment. Ses créations très sobres et pratiques, elle est la première à raccourcir les jupes et à supprimer la taille. En 1915, la pénurie de tissus lui donne l'occasion d'introduire le jersey, maille alors réservée au tricot du corps et au maillot masculin, dans la garde-robe féminine. Grâce à sa souplesse et son élasticité, le jersey permet de réaliser des robes confortables, s'adaptant naturellement au corps des femmes. Son style est simple et pratique, jouant sur les codes masculin-féminin et vestiaire sportif. Sa maison devient emblématique et atteint le succès pendant l'entre-deux-guerres. C'est là qu'elle va créer son indémodable petite robe noire, le noir étant jusqu'alors destiné seulement au deuil, et lancer sa ligne de parfum en sortant célèbre numéro 5 le 5 mai 1921. Toutefois, Chanel ferme très rapidement sa maison de couture au début de la Seconde Guerre mondiale et ne reprendra l'aiguille avant 1954, date à laquelle où elle lancera son fameux tailleur en tweed. Coco Chanel est indubitablement une figure exceptionnelle de la mode, aussi bien de l'histoire française. Mais il ne faut pas oublier qu'elle reste une figure extrêmement controversée, notamment pour son comportement lors de la Seconde Guerre mondiale. En effet, elle jouera un rôle ambigu lors de l'occupation et était connue pour son antisémitisme, ayant essayé de despoter ses principaux actionnaires, les frères Wetemer, si, je ne sais pas si je prononce bien, à cause de leur origine juive. Enfin voilà.
Oui.
Bon, elle fait quand même partie des emblèmes de la couture. Elsa Schiaparelli, née en 1890, cette créatrice italienne est assurément la plus excentrique et avant-gardiste de tout le monde de la mode à son époque. Née dans une famille romaine universitaire, elle s'installe à Londres pour la première partie de sa vie et après un mariage raté, décide de se lancer dans la couture à Paris. En 1927, elle ouvre sa première boutique consacrée aux vêtements de sport où elle confectionne en particulier des pulls avec des gros nœuds en trompe-l'œil, très appréciés par le public. Quelques années après, elle installe sa maison de couture Place Vendôme et atteint la notoriété. Elle introduit dans l'esthétisme vestimentaire une dimension artistique en plus du fonctionnel. Dès son arrivée à Paris, elle se rapproche du mouvement dadaïste et fera de nombreuses collaborations avec de célèbres peintres Salvador Dali et Jean Cocteau. Selon Gertrude Lennert, elle conçoit la mode comme un art intrinsèquement lié à l'évolution des beaux-arts et notamment de la peinture. Dans l'esprit de l'art du moment, ses créations sont plus ou moins extravagantes, avec un grand soin apporté aux broderies élaborées aux couleurs très vives. Le rose shocking, aux boutons spécialement confectionnés par des designeuses et par le détournement d'objets, comme son célèbre chapeau escarpin.
Ah ouais.
Oui, enfin, je ne sais pas si on porterait ça à l'heure actuelle, mais bon. On reconnaît son style à tous les coups, tant ses créations sont excentriques et artistiques. Elle peut être la première à inventer le principe de haute couture dans le sens d'une production artistique plus qu'un habit portable. Après un exil aux États-Unis pendant l'occupation, elle retourne à Paris et reprend son activité en embauchant au passage un jeune modéliste, Hubert de Givenchy. Mais des contraintes financières l'obligeront à fermer sa maison de couture en 1954. Oui. Je finis par deux femmes. Madame Gray, 1930. Madame Gray, née Germaine Émile Grebs, est une figure plutôt discrète. N'ayant jamais eu la postérité et la promotion des autres couturières évoquées dans cet article, malgré tout, je ne peux m'empêcher de lui consacrer quelques lignes. Tout son travail est unique et exceptionnel. Elle débute en tant que modiste en 1934 sous le nom d'Alix et elle prend le nom de scène de son mari, le sculpteur russe Serge Serefkov, moi j'ai du mal avec les noms, en 1935, de petite taille, toujours habillé de façon austère et turban dans les cheveux, son apparence dénote totalement avec ses créations. Ramenant au goût du jour le style antique, elle crée des robes de soirée épurées aux drapés impressionnants. Sa matière de prédilection est le jersey de soie, dont elle utilise des quantités astronomiques pour produire une seule robe. En effet, elle réalise les drapés directement sur le mannequin en les cousant sur une base corsetée. Pour cela, elle invente le pli gré, qui consiste à réduire un lait de tissu environ 280 cm de large en seulement 7 cm par la création de multiples plis très serrés. Il n'est pas sans dire que son travail est d'une précision et d'une technicité formidables. La maison Gray, toujours en activité, fut cédée par la créatrice en 1984 à Bernard Tapie, puis ensuite être rachetée en 1888 par un groupe japonais.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler. Et pourtant, elle a inventé les plis.
Ah oui.
Voilà, les plis drapés. C'est ça, hein, qu'on vient. Vivienne Westwood.
Oui, connue.
Connue, hein. De nos jours, même si les hommes ont toujours la part belle, de plus en plus de femmes sont à la tête de maisons de couture. On pourrait écrire des pages et des pages sur Nina Ricci ou Sonia Riquel ou Miuccia Prada ou Versace ou Kawakubo. Ah mais non, mais ils peuvent pas avoir des noms qu'on sait prononcer. Alors, du coup, j'en étais où? Pour terminer cet article, donc, j'ai choisi de me concentrer sur celle qu'on surnommera l'enfant terrible de la mode. Westwood incarne avec ses créations la sous-culture britannique, créant en 1971 sa première boutique, d'abord dans le style hippie, puis s'orientant vers la mode punk. Ses créations abriront les Sex Pistols, ainsi que New York Dolls. Son style excentrique et coloré s'inspire de la culture urbaine et des rockers. Elle sera la première à remettre le tartan au goût du jour et à l'intégrer dans le vestiaire punk. N'hésitera pas à s'inspirer des modes anciennes pour ses collections, toujours plus expérimentales et baroques. Plus que provocatrice, Westwood n'hésite pas à passer un message politique dans ses créations. Elle décide de ne plus utiliser de fourrure, même fausse, dans ses collections et se serait aussi prononcée pour l'indépendance de l'Écosse.
Oui.
Une femme indépendante. Bravo. Qui est toujours en vie. Je tiens à le préciser. Donc il y a, à l'heure actuelle, on peut dire, si je reprends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va dire 8 avec Vivienne Westwood, mais de femmes qui ont collaboré à la mode.
Oui, collaboré grandement.
Grandement, hein. Mm-hmm. C'est quand même bien. Et on les entend pas. Non, ça vous parle pas.
Quelques-unes quand même.
Bah moi, par Coco Chanel, j'ai pas Maison de Gré. Oui, mais c'est vrai qu'après. On n'a pas trop l'habitude d'entendre parler de femmes. On connaît Jean-Paul Gaultier, ça, c'est indéniable. Yves Saint-Laurent, tout ça, c'est connu. Enfin, ça, quand on en parle, on dit oui, je connais.
Oui.
Si on parle de Rose Bertin, on ne connaît pas. Jeanne Paquin, à part la maison de couture, oui. Jeanne Lanvin, oui, c'est parlant. Donc, mais après, les autres, c'est vrai que. C'est pas des noms récurrents qui sont venus dans le monde de la mode, pas du tout en fait.
Ils sont pas majoritaires en fait.
Non.
C'est un domaine de business avec beaucoup d'argent derrière et c'est vrai que c'est tout ce qui est du domaine de l'argent, de la banque, etc. qui sont derrière ces maisons de couture, c'est essentiellement masculin.
Ouais, donc en fait les femmes elles savent pas compter quoi.
Toi, mais peut-être qu'on leur fait moins confiance.
Bon, pourtant elles ont prouvé, on prouve
elles
chaque jour.
Prouvé, ouais,
elles ont prouvé
ça
que
ça change.
Ouais, ouais, parce qu'elles ont quand même créé leur maison de couture.
Oui.
Donc,
bien
c'était
sûr.
Pas rien.
Non, et puis elles ont aussi apporté une autre vision de la mode, beaucoup moins emprisonnante peut-être pour les femmes.
Ouais, parce qu'en fait les hommes, de ce que on peut lire, les hommes sont restés dans ce qui devait se faire à l'époque. C'est plutôt les femmes qui ont été dans cette libération du corps de la femme, non?
Un peu des deux. Quand on voit que Poiret libère la femme de cette forme corsetée au début du XXe siècle, il y a d'autres créateurs aussi, comme Saint-Laurent, quand il mélange le vestiaire masculin avec le smoking pour les femmes.
Oui, aussi, c'est
qui
vrai.
C'est une nouveauté aussi. C'est vrai que c'est un milieu qui est essentiellement masculin au niveau des noms. Après, bien sûr, il y a toutes les petites mains, les couturières, les premières d'atelier, etc., qui font le travail réellement.
Ouais.
Voilà, il y a le créateur et les
couturières. Ouais. Mais on dit quoi? On dit du coup, maintenant on dit toujours couturière ou on dit
Dans les ateliers, oui, ce sont des couturières. Ouais. Première d'atelier, la dame qui, la personne, en général ce sont des femmes dans les ateliers. Il y a aussi des hommes, mais qui s'occupent de gérer par exemple l'atelier flou, l'atelier tailleur, et puis qui sont là pour gérer le personnel, répartir les tâches, qui ont une responsabilité au niveau de la présentation des modèles, bien sûr.
Donc c'est moins, un styliste est beaucoup moins les femmes que les hommes en fait.
Il y a un peu des deux. De plus en plus de stylistes actuellement, femmes, de jeunes femmes qui montent des maisons de couture. Alors, c'est pas de la haute couture.
Ouais.
C'est plus du prêt-à-porter. On a vu Sonia Riquel, par exemple. Il y a Agnès B aussi, qui au début, dans les années 70, ont commencé à créer des modèles beaucoup plus portables, beaucoup plus pratiques. C'était l'époque qui voulait ça aussi, hein, la révolution sexuelle, etc. Et donc la mode est devenue plus accessible, plus inspirée de la rue aussi. Il y a eu un échange entre les créateurs et la rue.
Mais du coup, les hommes sont restés, les hommes stylistes sont restés plus dans le truc beaucoup plus aristocratique, on va dire.
Dans le domaine de la haute couture essentiellement, ou du très haut de gamme.
Donc le très haut de gamme, c'est principalement les hommes, et les femmes, elles se sont axées sur... ce qui était beaucoup plus facile à porter. On peut dire ça?
Oui et non. Il y a des grandes maisons hein, avec des femmes. Alors maintenant, il y a le nom de Chanel. Bon, il y a eu, bien sûr, là, toute la période de Karl Lagerfeld. Et là, c'est une dame qui a repris comme directrice artistique.
D'accord.
Je ne me souviens plus de son nom. Qui a repris la direction artistique de chez Chanel. Donc, c'est revenu pour une créatrice féminine.
D'accord.
Il y a des femmes comme chez Versace qui sont aussi à la tête du
après
stylisme.
Le décès de son frère a repris. Ouais. Bah, on n'en parle pas assez, en fait.
Non, parce que c'est minoritaire. C'est minoritaire.
C'est bien dommage. Angèle, on va passer une petite chanson?
Oui. Alors cette fois, je vais vous passer Walk Like an Egyptian des The Bangles, sorti en 1986.
Devant le micro, Angèle, parce qu'on t'entend pas.
Pardon.
Energy. walk like an Egyptian.
Donc nous revoilà avec Marianne. Donc Marianne va nous parler un peu de la mode. Donc t'es qui? T'as la question qui tue. T'es qui?
Je suis moi.
Voilà.
J'essaye. Non, c'est vrai que c'est un métier qui m'a permis de m'exprimer en fait, de trouver ma voix. Oui, voilà, puisque j'étais dans un domaine différents avant.
Tu faisais quoi?
J'étais professeur d'art plastique pendant de nombreuses années.
Enfin, disons que d'art, c'est dimension artistique, on va dire, mais rien à voir avec la couture. Artistique de sculpture ou de dessin?
Les deux. J'aime bien tout, en fait, aussi bien la peinture que le travail du volume. Et pour moi, la couture, c'est un peu comme une sculpture, en fait.
D'accord.
Voilà.
Mais pourquoi avoir changé comme ça?
J'ai toujours fait de la couture depuis que je suis petite. J'ai toujours le souvenir d'avoir baigné dedans. Voilà.
C'est mamie, maman qui t'a appris?
Oui, une famille de couturières, de toujours avoir vu en fait coudre. Naturellement, j'y suis venue aussi. Et puis en travaillant à côté, j'essayais de coudre le plus possible aussi. Et,
tu faisais des vêtements?
Des vêtements pour moi, quand j'étais jeune, pour les enfants après. Voilà. Et puis j'ai arrêté l'enseignement pour faire autre chose. Et puis naturellement, je suis venue vers la couture. Voilà.
Oui, c'est bien.
Oui, je suis très contente.
C'est bien de changer de métier et découvrir ce qu'on aime.
Oui.
T'as découvert ça comme ça, c'était ta passion ou ça t'a semblé tellement naturel de...
C'est venu assez naturellement. J'ai pris le temps d'y réfléchir, bien sûr, et puis j'y suis venue, en fait, par élimination de ce que je ne voulais plus faire.
Ouais. Voilà. Et plus le prof.
Ah bah non.
Et du coup, t'as dû prendre une formation,
Alors, au niveau de la technique, ça, j'ai quelques années de pratique, donc je me débrouille. J'ai suivi une formation de stylisme de manière à compléter, en fait, cette formation. Et puis, de manière à pouvoir créer, d'un bout à l'autre, un modèle.
Voilà. D'accord. Et... est-ce que tu as des spécialisations?
Alors, je me suis spécialisée dans le costume historique, costume de spectacle et également la robe de mariée.
Aussi?
Oui.
Et qu'est-ce que tu préfères faire?
Quelque chose de difficile.
Plus c'est compliqué, mieux c'est ça?
Oui, parce qu'il y a plein de problèmes. C'est pas seulement coudre. Il y a la morphologie de la personne, il y a la recherche des tissus les plus appropriés, trouver des astuces pour que l'ensemble fonctionne.
C'est compliqué de faire quelque chose sur mesure?
Ça demande de... Compliqué, non. Ça demande du soin et... un petit peu d'audace, il ne faut pas avoir peur quelquefois.
Et beaucoup d'essais.
Et beaucoup d'essayage, voilà. Oui.
Ouais, mais c'est... parce que du coup, c'est pas... C'est, en fait, la technique... Enfin, si, la technique peut rester la même, mais sur des morphologies qui sont différentes, tu dois utiliser des techniques différentes ou ça reste...
Les techniques sont les mêmes, en fait. Ce qu'il faut, c'est s'adapter à chaque fois à une nouvelle morphologie, à chaque fois s'adapter à la personne, à ses envies, en fait. Voilà. Donc, on fait un projet à deux.
Ben mais comment tu, parce que quand tu vois, quand tu couds en fait du coup sur un mannequin par rapport aux dimensions de la personne, c'est ça? Non, parce que du coup on réalise pas comment ça peut être fait un vêtement. Tu vois ce que je veux dire?
Techniquement les étapes.
Ouais, enfin moi je me dis Alors moi c'est juste un petit aparté, c'est que une fois on a voulu faire en vitesse des costumes de lutin. En fait on s'est mis par terre, on a décousu en fonction de son corps et après on a agrafé.
Ah, voilà. C'est une technique. Hein.
Oui. C'est une technique. Donc mais si tu veux, c'est de s'imaginer comment tu peux faire en sorte que le costume, la robe de mariée, enfin peu importe, aille à la personne.
Dans un premier temps, il faut prendre des mesures, établir un patron en papier qu'on appelle une toile, en fait, qui correspond aux différentes pièces du vêtement, qui sont adaptées au corps de cette personne.
D'accord.
Et cette toile, c'est sur celle-ci que l'on adapte, en fait, aux mesures. Et après, on part de ça pour faire un patron et couper les morceaux de tissu.
Et après, tu mets ça sur un...
Ah, il faut avoir un mannequin, parce qu'on ne peut pas avoir la personne tout le temps à disposition.
Non, mais j'avais vu, parce que je suis allée chez toi, que tu avais un mannequin que tu peux régler.
Qu'on peut adapter aux mesures.
Ouais. Comme ça, tu es sûr plus ou moins de ne pas trop te tromper. Quoi.
Voilà.
C'est du boulot, hein.
Bah oui, totalement.
Hein, ouais. Moi, j'ai du mal à imaginer comment tu peux... Comme
c'est
ça,
fascinant.
Oui, comment tu peux te dire, tu vois, c'est comme... Ouais. C'est parce que créer quand même un vêtement complet.
Je pense qu'il y a parce que une question d'habitude.
Tu crées de quelle façon ? Avec une machine à coudre, hein, je suppose.
Oui,
mais il n'y a pas que. Tu fais main aussi parfois.
Ah oui, il y a certains détails, notamment sur le costume historique.
C'est obligé d'être.
Ce qui se voit doit être fait de la même façon qu'à l'époque.
D'accord. Donc tu fais quasi tout à la main sur un truc historique.
Les grandes distances de couture.
Ouais, à l'intérieur, tu fais à la machine.
Mais il y a beaucoup de choses qui se font à la main, effectivement. Oui.
Et comme quoi. Hein.
Ouais.
Non, mais c'est assez fascinant parce que on a du mal à. Moi, j'ai du mal à me dire.
À projeter.
Comment on fait pour que c'est sûr que ça soit bien aux bonnes dimensions, quoi.
C'est une question de pratique, d'habitude, et puis il faut avoir un certain sens aussi pour ça, pour les volumes, par exemple.
C'est mathématique, non ?
Non, mais la sculpture, donc je pense
de la forme et de la géométrie. Ouais.
Bon, on va vous laisser un petit peu avec une petite page de publicité, puis en fait on revient avec Marianne parler de couture et de mode. Donc je vous dis à tout de suite.
À tout de suite.